Morning Edition from NPR News.
Let's see him some people house.
France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde, c'est jusqu'à 19h. Dans quelques secondes, le politologue Bertrand Badi, retour sur les grands dossiers diplomatiques de 2019 qui marqueront encore 2020. Les bruits du monde en Côte d'Ivoire ce soir avec les créateurs de mode. Reportage d'Amandine Réau. Sous les radars de l'actualité, Claire Chaudière, des usines à légumes au Japon, la Thaïlande et des éleveurs d'éléphants qui se veulent le plus éthiques. En Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, on compte les minutes d'ensoleillement. Le mercredi, le cinéma en VO. Corinne Pellissier nous recommande le premier film d'un cinéaste chinois, Gu Xiaogang. Vers 18h55, le monde à l'envers. Claude Guibal, toute cette semaine, les crises que l'on croit réglées et qui ne le sont pas. Direction le Cachemire.
Pierre Veil. Un jour dans le monde.
C'est une sorte de tradition dans Un jour dans le monde. Le 1er janvier, nous faisons un bilan diplomatique des 12 derniers mois en analysant les conséquences pour l'année nouvelle. Et chaque année, nous vous invitons, Bertrand Badi, bonsoir.
Bonsoir, bonne année.
Bonne année à vous aussi, Bertrand Badi, politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, spécialiste des questions internationales, auteur de nombreux livres. Le dernier en date, L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale chez Odile Jacob. Alors, on revient sur les événements majeurs de 2019 et leur prolongement en 2020. D'abord, Donald Trump, cette année, en novembre, aux États-Unis, élection présidentielle. Il se présente pour un second mandat, protectionniste, anti-immigration, climato-sceptique, jugé dans quelques jours au Sénat américain dans une procédure de destitution qui a peu de chances d'aboutir. Quel bilan, Bertrand Badi, faites-vous de son premier mandat ?
C'est un homme qui a inventé une forme explicite de diplomatie qu'on appelle la diplomatie électorale. Regardons les choses à partir du monde, puisque nous sommes ici en France, et effectivement, c'est assez surprenant que le leader de la première superpuissance se définisse non plus en fonction d'un projet universaliste, universalisation des valeurs américaines, ça c'était le néoconservatisme de George W. Bush, non plus par référence à une mondialisation qui porterait une sorte de néolibéralisme libre-échangiste, ça c'était Obama, mais à partir des intérêts nationaux, non pas en tant que tel, parce que c'est intérêt national, en soi ça ne veut pas dire grand-chose, les intérêts nationaux tels que perçus par son électorat, et qu'est-ce que c'est que l'électorat de Trump ? Ce sont des électeurs qui ont peur de la mondialisation, qui considèrent que celle-ci est en train de modifier la structure démographique des États-Unis, donc mettre en péril cette classe moyenne blanche qui était hégémonique jusque-là, et puis surtout provoque une diminution de leur pouvoir d'achat et de leur capacité économique. Et du coup, tout s'est cristallisé autour de cela, c'est-à-dire que on a eu affaire avec ce nouveau président à une diplomatie, je disais, électorale, électoraliste, flattant cet électorat, et le flattant en s'appuyant sur ce slogan national, il faut protéger la nation. En gros, la première superpuissance devient la première puissance contestataire de la mondialisation. C'est une inversion de l'histoire.
Lui, il dit qu'il a un bilan économique formidable.
Alors, certainement, c'est vrai que les indicateurs économiques sont au vert aux États-Unis. Dans le court terme. C'est-à-dire que ce que l'on entend dire, je ne suis pas économiste, mais j'entends mes collègues économistes, et ça me paraît relever du bon sens, c'est qu'une politique protectionniste, dans un premier temps, sauve des emplois, protège des secteurs économiques menacés par la concurrence internationale, dans un deuxième temps, appauvrit le consommateur, puisque les produits qui sont surtaxés, qui sont frappés de droits de douane plus élevés, coûtent plus cher au consommateur. Oui. Et c'est ce type de déséquilibre qui est en train de s'inscrire dans les astres économiques mondiaux et qui vont retomber sur le pied des États-Unis, probablement après l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle celle-ci ne sera peut-être pas affecté par les effets de contre-indication de cette politique étrangère.
C'est pas facile de faire des prévisions, mais à votre avis, Trump peut être réélu au mois de novembre ?
Le terme est prudent, il peut être élu. Il n'est pas, à mon avis, sérieux de se poser cette question et surtout d'y répondre en ce moment parce qu'on ne sait pas qui va porter le flambeau démocrate. Et on ne sait pas non plus à quoi ressemblera la conjoncture nationale et surtout mondiale à l'automne prochain.
Donald Trump et la Corée du Nord. Trump se vantait d'être entré dans l'histoire en rencontrant plusieurs fois Kim Jong-un. Et hier soir, Kim annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux. Il promet même une action sidérante contre les États-Unis. Comment expliquez-vous ce revirement du dictateur nord-coréen?
Je ne pense pas que ce soit un revirement. Il y a eu une sorte d'engouement, d'euphorie, de grande naïveté qui s'est emparée de beaucoup d'observateurs au moment de la première rencontre. Rappelez-vous celle de Singapour, celle d'Hanoï, la seconde s'était déjà moins bien passée. Mais la ligne de Kim Jong-un était assez claire. Elle consiste, comme souvent avec ce type d'État, à se faire reconnaître, c'est-à-dire se faire admettre dans le club de ceux qui comptent dans le système international. Mmh. Vous savez, le système international est frappé d'une hiérarchie sévère et d'une oligarchie trop visible pour un certain nombre d'États qui se sentent marginalisés. C'est vrai de la Corée du Nord, c'est vrai de l'Iran, c'est vrai de beaucoup d'autres. Et à partir du moment où il est offert à ces États la possibilité de s'affirmer comme puissance sur la scène mondiale, il s'engouffre dans la brèche. Ce qui s'est passé avec Kim Jong-un. Kim Jong-un a été le premier dirigeant nord-coréen à serrer la main d'égal à égal avec Donald Trump.
Ce qu'il voulait, c'était une réduction des sanctions économiques qui visent son pays. Et il dit, j'ai rien obtenu.
Oui, mais ça, il le savait. Oui. Vous savez, la donne des rapports américano-nord-coréens est une donne bien connue. Obtenir la levée des sanctions comme ça, il savait très bien qu'il n'y arriverait pas. Réussir à se faire photographier avec le président des États-Unis, montrer qu'il peut parler d'égal à égal, ce qui, vis-à-vis de son opinion publique nationale, est quelque chose de très positif, mais même au niveau international, s'affirmer dans la cour des grands, c'est pas mal, il a obtenu ce qu'il voulait, maintenant il continue, et il aurait bien tort, pourvu qu'il ne m'écoute pas, mais il aurait bien tort de se priver de ce programme nucléaire qui le met beaucoup plus à l'abri d'incertitudes que ne le sont actuellement d'autres pays, dont l'Iran, qui n'a pas ce rempart.
Mais ce qu'on constate, c'est que la stratégie de pression maximale chère à Donald Trump, elle ne marche pas, ça ne marche pas. En Iran, le régime tient. Au Venezuela, là aussi, le régime est toujours là. En Corée du Nord, là encore, Kim Jong-un résiste. Donc, c'est un échec.
C'est un échec. Et alors, ce qui est extraordinaire, et ça, c'est vraiment le testament de 2019, c'est que les grandes pressions correspondant à la grammaire classique de la puissance ne fonctionnent plus. Et on l'a vu pour l'Iran. Regardez l'Iran qui a pu, même de façon tout à fait libre, j'allais dire, bombarder les sites pétroliers saoudiens. Mais en revanche, que la superpuissance américaine ne peut pas faire, la rue à Bagdad et la rue à Beyrouth est en train de le faire. C'est-à-dire que la politique étrangère iranienne et la politique régionale iranienne est beaucoup plus gênée et entravée par ce qui se passe à Bagdad, à Bassora, à Najaf ou à Karbala que par les décisions qui sont prises à la Maison-Blanche.
Le 13 janvier, à Pau, Emmanuel Macron organise un sommet avec les dirigeants des 5 pays du Sahel confrontés à de multiples attaques djihadistes, particulièrement meurtrières ces derniers mois. 70 morts au Niger le 11 décembre, 42 morts au Burkina Faso le 24 décembre. Selon vous, Bertrand Badi, les fanatiques islamistes ont-ils choisi l'Afrique, le Sahel, comme nouvelle vaste base après avoir été chassés de Syrie et d'Irak?
Le djihadisme s'installe là où le terrain lui est favorable. Et le terrain sahélien est de tous les terrains de la Terre aujourd'hui le plus favorable aux manœuvres djihadistes. D'abord dans le recrutement d'un personnel militant, ensuite dans la capacité de s'insérer au sein de la population et au sein, je dirais, de l'écologie sahélienne, et du fait de l'impuissance avérée des États locaux et de leurs protecteurs internationaux, dont la France, de pouvoir réagir. Je dirais même que plus l'instrument militaire est utilisé contre ces djihadistes, plus on a le sentiment qu'ils arrivent à en tirer profit dans leur propre propagande. C'est extrêmement dangereux. La grande erreur, c'est de ne pas voir à travers cette conflictualité nouvelle à quel point nous avons changé de logique guerrière, c'est-à-dire la guerre d'hier, celle qui se gagnait à coups de bataille de la Marne, qui conduisait les vaincus plus ou moins directement à demander l'armistice et à demander la paix, ça s'est terminé. Nous sommes dans une logique où les facteurs sociaux et les facteurs politiques sont tellement, tellement imbriqués que le canon peut pas faire grand-chose contre cela.
On dit en 2019, les Américains ont éliminé Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Dans quelques jours, ce sera 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, en novembre prochain, 5 ans après les tueries au Bataclan et sur les terrasses dans la capitale, ici à Paris, selon vous, Bertrand Badie, le terrorisme international, l'islamiste fanatique est toujours une menace. Un attentat de grande ampleur reste possible ?
Je pense qu'on est en train de découvrir douloureusement les formes nouvelles de conflictualité et que si on ne sait pas les traiter, celles-ci vont, je vais employer un terme affreux, se banaliser. C'est-à-dire devenir une sorte de rituel dans un jeu d'affrontement qui n'a pas ce caractère d'affrontement clair, ouais, de confrontation militaire que nous connaissions avec les guerres d'autrefois. Oui, nous sommes installés dans un processus qui a commencé il y a longtemps, en fait, on ne le voyait pas venir, qui a commencé sous la colonisation à travers les premières formes de résistance à la colonisation. Nous sommes à la fin du 19e siècle, qui s'est amplifié avec les guerres de décolonisation, qui prend aujourd'hui des formes extrêmement complexes et subtiles. Et si on ne les regarde pas en face, eh bien, on risque d'en être l'otage de manière définitive.
2019, marqué par de nombreuses mobilisations pour la liberté, la démocratie, la fin de la corruption, la fin du pouvoir confisqué par des clans, des mafias. Face aux manifestants, il y a des pouvoirs qui résistent, qui s'accrochent. Il y a l'Algérie, on va en parler si on a le temps. Et puis à Hong Kong, les manifestants défient la dictature chinoise. Aujourd'hui encore, 1 million de manifestants, selon l'agence France Presse, 400 arrestations. Quelle issue à cette épreuve de force, selon vous ?
Écoutez, là aussi, 2019 nous aura appris bien des choses, et notamment que le social est désormais plus fort, plus déterminant de l'agenda international que le politique. Regardez le politique, il est en plein désarroi, il ne sait pas comment réagir. Regardez les gouvernements au Liban, en Algérie, la Chine face à Hong Kong, mais on pourrait même élargir le pouvoir en France face aux Gilets jaunes, alors que le social est en train de réoccuper un espace que la dépolitisation progressive de nos sociétés a laissé libre. Il n'y a plus il y a de moins en moins de partis représentatifs et légitimes, il y a de moins en moins de formes institutionnalisées de participation politique. Donc le mouvement social vient s'emparer de l'espace politique et il devient plus déterminant que ne le sont véritablement les actions politiques traditionnelles.
Bertrand Badie, des manifestants algériens sont non violents, c'est très frappant. En face, les militaires pourraient répondre par une répression sanglante. Certains généraux algériens septuagénaires ont été formés par les soviétiques, donc ce ne sont pas des tendres. Ils ne le font pas, pourtant il y a des arrestations, mais ce n'est pas la répression massive. Pourquoi ?
Parce que je pense que l'on a plus ou moins conscience que ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le social est devenu plus déterminant, plus fort que le politique, et que par conséquent réprimer le social risque d'alimenter la colère, d'aggraver le mouvement social, de renforcer la pression que celui-ci peut exercer. Pékin l'a très bien compris. S'il n'a pas envoyé ses chars, Dieu en soit loué, dans les rues de Hong Kong, c'est parce qu'il sait très bien que l'effet répressif serait pire que l'effet de subir. Et effectivement, on est entré dans un temps où le politique subit beaucoup plus qu'il n'agit. On passe de l'actif au passif.
Dernier point, Bertrand Badie, nous sommes en 2020. Il y a 9 ans débutait la révolte contre Bachar el-Assad en Syrie. Le dictateur est toujours là. Il contrôle à nouveau les 2/3 de son pays. Il a gagné.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois qu'effectivement, je me souviens, le printemps 2011, personne ne misait un centime sur la survie du régime de Bachar el-Assad. Et puis effectivement, il est toujours là. Il est toujours là négativement, c'est-à-dire qu'il n'a pas été renversé. Formule négative. Est-ce que véritablement une Syrie aujourd'hui peut être reconstruite sous les auspices d'un Bachar ou d'un Poutine? Ça, c'est beaucoup plus problématique. Ouais. Et à nouveau, je reviens à mon théorème de tout à l'heure, le social décide davantage que le politique.
Bertrand Badi, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation traditionnelle à France Inter le 1er janvier dans Un jour dans le monde. Merci.
Merci à vous.
Le 18-20, Pierre Veil sur France Inter.
La suite d'Un jour dans le monde jusqu'à 19h, les bruits du monde, reportage avec les créateurs de mode en Côte d'Ivoire. Des bruits du monde sous les radars de l'actualité, Claire Chaudière. Bonsoir Claire,
rebonsoir Claire. Rebonsoir, on va parler de l'étude japonaise qui ne voit pas beaucoup la lumière du jour.
Le cinéma en VO comme chaque mercredi, le premier film d'un cinéaste chinois, Gu Xiaogang. Son titre, Séjour dans les monts Fujun. Corinne Pellissier n'en pense que du bien. Le monde à l'envers, vers 18h55 avec Claude Guibal. Bonsoir Claude.
Bonsoir Pierre.
Bonne année, Claude.
Bonne année à vous.
Cette semaine, les crises que l'on croit régler, il y a une crise qu'il va falloir surveiller de très près cette année.
Oui, c'est un conflit qui est tellement ancien, Pierre, en fait, qu'on oublie parfois qu'il existe. On part au Cachemire, ce territoire que se disputent depuis des décennies, depuis 70 ans, l'Inde et le Pakistan.
À tout à l'heure, Claude. Elle est californienne, toute jeune, elle a 17 ans, c'est la révélation musicale de 2019, Billie Eilish, sur son premier album. Il y a des chansons souvent sombres, toujours délicates, avec une voix qui semble vous faire une confidence. Et là, un nouveau titre, Everything I Wanted. Elle raconte un cauchemar.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change.
Voici les bruits du monde et ce soir on va en Afrique, en Côte d'Ivoire. Là-bas, le wax n'a plus la cote chez les créateurs de mode. Le tissu coloré aux motifs en série est trop associé à l'époque coloniale. De nombreux stylistes désormais préfèrent le pagne tissé. Il a le mérite de valoriser l'artisanat local. Les stylistes remettent au goût du jour leur identité ivoirienne, africaine. Reportage en Côte d'Ivoire, Amandine Réau.
Là, j'ai encore une pièce de la fameuse jupe portée par Beyoncé. Elle se porte taille haute, elle est assez sexy parce qu'on a une jambe vraiment dehors. Il y a plusieurs pièces, moi, il y a trois pièces de mon énergie.
Rebecca Zoro est créatrice et à seulement 32 ans, elle a déjà habillé la star mondiale Beyoncé. Le créneau de sa marque, Yebe Design, valorisait les tissus locaux mis au placard par la génération de sa mère.
C'est une envie de raconter son histoire, une envie de dire d'où je viens, qui je suis. Dans mes vêtements, j'essaie de mettre ce que je connais depuis mon enfance, en fait. Je suis ivoirienne, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai toujours vécu ici. Je veux emmener la jeunesse à porter plus retour aux sources. Tout simplement en les montrant de manière différente, en fait, ce qu'ils connaissent déjà. Pour dire non, écoutez, c'est pas vieux, c'est pas que des mamans, c'est pas que notre grand-mère qui le portait. Nous aussi, on peut le porter à notre manière.
Dans le showroom de Rebecca Zoro, les vêtements en wax tiennent sur un seul portant. La créatrice travaille avec toutes sortes de matières, du jean mêlé à du pagne tissé à la main par des artisans ivoiriens. Elle passe beaucoup de temps à chiner dans les marchés et décline.
Alors là, je vous présente une pièce de ma nouvelle collection qui sort très très bientôt. Le point gros, normalement, il est associé aux vieilles, il est rigide. Je ne peux pas le porter très facilement. J'ai eu l'idée de le rendre plus fluide, plus portable, pas tout le monde, pas la jeunesse. D'abord, j'ai pris l'imprimé du point gros que j'aime beaucoup et je l'ai imprimé sur plusieurs matières différentes.
Rebecca Zoro garde secrète sa clientèle, des femmes aisées. Comptez 100 à 150 euros la robe dans un pays où le salaire minimum est de 90 euros. Quittons le quartier huppé des deux plateaux pour la commune populaire de Trècheville. C'est là que Pateo Edraogo, alias Pateo, tient son atelier de production depuis plus de 30 ans.
Bonsoir, messieurs, dames.
C'est la coupe. Il est un coupeur.
Hey, boss, comment ça va ?
Ça va, ça va.
Ces vêtements sont reconnaissables au premier coup d'œil, des taches de couleur pastel sur du coton blanc ou du moucheté, des petits points, ce sont les teinturières du quartier qui ont la technique.
On a voulu créer à partir des matières de chez nous, de l'Afrique. Et au départ, ce n'était pas évident. Parce que les gens disaient, mais il est fou, quoi. C'est-à-dire, les gens se moquent de vous. Si vous prenez un tissu fait en Côte d'Ivoire ou au Burkina pour tailler une chemise, vous n'arrivez jamais à convaincre un responsable de porter ça pour sortir, non ?
Ça, c'est une chemise marron avec des motifs assez ballonnés.
Souleymane, 33 ans, est couturier dans l'atelier. Il est en train de confectionner une robe.
La robe s'appelle Montée dans la pluie.
Vous ne l'avez pas avec vous, le modèle, par contre?
Non, la modèle n'est pas à nous.
C'est dans la tête?
Oui, c'est dans la tête. Ouais, pas que c'est une grande marque. Oui, les modèles sont chic. En voyant, moi, je suis fier.
Parti de rien, arrivé seul du Burkina Faso à 14 ans, Pateo a habillé l'ancien président sud-africain Nelson Mandela par l'intermédiaire de la chanteuse Myriam Makeba.
Elle a vu que je faisais des chemises qu'elle-même a déjà aimées. Elle a dit, bon, tiens, je prends ça pour la donner au président. Il va aimer. C'est comme ça que c'est parti. Elle a payé, je crois, 4 ou 5 chemises, je pense. Modestement aussi, j'ai offert une chemise à la dame. Donnez-lui ça de ma part. Mais vraiment, franchement, je ne pouvais pas imaginer. C'était comme un rêve, vous voyez. C'est même pas possible.
Le couturier parle de hasard. Commence la collaboration d'une vie et un tremplin. Grâce à cette notoriété, Pateo habille de nombreux chefs d'État africains. Aujourd'hui, sa réputation est telle que ses clients viennent de l'étranger pour acheter ses créations. Ce jour-là, un jeune couple de Parisiens fait des essayages.
Non, tu préfères en haut ou en bas?
Je préfère en haut.
Là, c'est trop haut.
Toi, tu vois
tout le bras. Non,
ouais,
on voit
que c'est.
Ça vous plaît?
Ouais. C'est très joli. Merci, Paté.
Voilà.
Bonjour, je suis Chantal Guiraud, tisserande teinturée ivoirienne, présidente de la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels.
Le pagne tissé fait doucement son retour en Côte d'Ivoire. La fédération a vu le jour en 2014. 5 à 600 tisserands se sont regroupés. Ils ont reçu des formations encadrées par le ministère de l'Artisanat. Formation en teinture, en gestion pour que les normes de qualité soient uniformes.
C'est notre identité et ce tissu-là, au-delà de l'aspect vestimentaire, il transporte nos cultures. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, chaque motif de paille correspond à une région. Mais ce sont des motifs qui ont une explication culturelle et qui transportent certainement des civilisations selon nos arrières, nos aïeuls qui ont conçu ces motifs-là.
Vous pouvez m'en montrer quelques-uns ?
Bien sûr. Vous avez ici déjà, en Côte d'Ivoire, le paille bleu-blanc, le rayu bleu-blanc, il vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, des 18 montagnes. Il y a les colorés, les plus colorés, qui sont les pagnes baoulés. Vous avez ici les pagnes bourreaux. Et on a le batik de Grand Bassam. En tout cas, chaque région de la Côte d'Ivoire a son pagne quand même. On a fait ça comme ça.
Aujourd'hui, le wax a toujours l'avantage du prix, 2 à 7 fois moins cher que le tissu traditionnel. Il a la plus grosse part de marché, mais Chantal Guiraud a bien l'intention de changer cela. Avec l'instauration du port du pagne traditionnel un jour par semaine dans l'administration. Et pourquoi pas un circuit touristique dans toute la Côte d'Ivoire.
Reportage en Côte d'Ivoire, Amandine Réau. Et le bruit du monde sous les radars à présent avec Claire Chaudière, bruit d'usine d'un genre particulier, Claire.
Oui, usine dans lesquelles on fait pousser des légumes. C'est au Japon que ça se passe, nous ne sommes pas à la campagne mais en milieu très urbain, dans un immense entrepôt où grandissent des millions de laitues entreposées à la verticale, hors sol, manipulées par des hommes mais aussi par des automates, des centaines de rangées de légumes à perte de vue, murs blancs, lumière homogène, environnement parfaitement contrôlé et stérilisé. Les laitues japonaises poussent à l'abri du vent et ces usines fleurissent à travers le pays. Dans cette interview accordée à l'agence France Presse, un salarié d'usine explique que l'un des avantages de cette technique, c'est qu'elle permet de cultiver une très grande quantité de légumes sur de petites superficies, une nécessité dans un pays comme le Japon. Et ça, c'est Shinji Inada, le patron de l'entreprise en question, Spread, qu'on entend maintenant. Ça a été difficile de se vendre au début, mais ensuite, nous avons créé une image de marque pour attirer les clients, dit-il, car nous pouvons produire une même qualité de produit au même prix tout au long de l'année. L'autre truc, ajoute-t-il, c'est que nous avons peu de pertes. Nos produits se conservent longtemps, ce qui est générateur de recettes. Et oui, pas d'intempéries, pas de nature, pas de petites bêtes, pas de pesticides, donc des légumes presque parfait que les Japonais n'ont pas besoin de laver et dont la production a commencé il y a 10 ans maintenant avec désormais 200 usines de ce type au Japon.
En Thaïlande, Claire, une ONG tente d'imposer un nouveau modèle de dressage des éléphants.
Ban Tak Lang, dans l'est de la Thaïlande, est l'épicentre du dressage des éléphants, un secteur touristique extrêmement dynamique. 5000 visiteurs par jour, 45 euros le ticket pour l'expérience éléphant avec balade à dos d'animal et spectacle en place publique. Des éléphants qui dessinent avec leur trompe la patte joliment relevée. Oui, mais l'envers du décor de tout ça est en fait assez catastrophique. Bébés éléphants séparés de leur mère, battus, piqués avec des crochets et des bâtons, un niveau de souffrance animale très élevé. Mais les tours opérateurs commencent à boycotter ces camps de Ban Tak Lang, alors qu'une ONG, World Animal Protection, tente d'imposer de nouvelles méthodes sur un autre site touristique. Pas de balade à dos d'éléphant, interdiction aussi de toucher les animaux, explique l'un de ses membres à l'AFP.
Notre but est de redonner toute leur liberté aux éléphants. Mais on doit faire ça sans causer de problème aux habitants de la région.
Pas de violence ou réduite au strict minimum. Des touristes qui peuvent donc observer mais pas toucher ces animaux hein, avec au minimum 15 mètres de distance. Une initiative encore isolée dans un pays qui compte plus de 4000 éléphants en captivité.
Et alors comme chaque année, le 1er janvier, une drôle de bataille existe entre Saint-Pétersbourg et Moscou en Russie.
Oui, avec cette question, laquelle des deux villes a battu en décembre le record du plus faible taux d'ensoleillement ? Le ciel du mois de décembre est très traditionnellement extrêmement gris et bas en Russie. En 2017, c'est un record historique qui avait été battu par Moscou avec seulement, tenez-vous bien, 6 minutes de rayon de soleil sur la capitale en 4 semaines. Et cette année, c'est Saint-Pétersbourg qui risque de voir flamber les dépressions hivernales avec seulement 2h30 d'ensoleillement sur l'ensemble du mois de décembre. Alors que la moyenne là-bas est quand même plutôt autour de 18 heures de soleil en décembre, un taux déjà assez bas. Tout ça, Pierre, m'a donné envie de réécouter une chanson russe très populaire que vous connaissez peut-être. Tiomnaya Notch, Nuit Noire, 1943, interprétation Marc Berne.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
Темная ночь, allez faire de la luminothérapie, hein, et portez-vous bien en 2020.
Claire Chaudière, merci sous les radars de l'actualité et à demain. En 1970, Stevie Wonder reprenait une célèbre chanson des Beatles, We Can Work It Out. À l'époque, en 70, Stevie Wonder avait 20 ans quand même, faut oser adapter un succès des Beatles. Eh bien, on peut le dire, l'adaptation est carrément meilleure que l'original. We Can Work It Out, Stevie Wonder.
Saying you can get it wrong and still think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
Choisi par notre programmateur Djoubaka en 1970, We Can Work It Out, et bien sûr l'harmonica de Stevie Wonder.
France Inter.
Un
jour dans le monde.
Et comme tous les mercredis, le cinéma en VO, ce soir avec Corinne Pellissier. On part avec vous, Corinne, en Chine, pour un séjour dans les monts Fujun. C'est le nom du premier film d'un jeune réalisateur inconnu jusqu'ici, mais dont on va beaucoup parler. Il s'appelle Gu Xiaogang, il a 31 ans. Et avec ce film, il signe un portrait ambitieux de la Chine contemporaine.
Voilà l'évolution sociale et économique du pays à travers le portrait d'une famille. C'est un projet ambitieux qui s'inscrit au long cours. Ce séjour dans les monts Fushun est le premier volet de ce que devrait être une trilogie, inspirée en partie des souvenirs du réalisateur de sa ville d'origine située au nord-ouest de Shanghai, à Fuyang, qui est intégrée depuis peu à la ville de Hangzhou. C'est là qu'auront lieu en 2022 une partie des épreuves des Jeux Olympiques. Les trois films vont tourner chacun leur manière autour de l'événement. 1, 2, 3, avant, pendant, après. L'occasion pour Gu Xiaogang de mesurer toute l'ampleur des transformations et des bouleversements du pays depuis le boom économique des années 90, l'obsession pour la possession, l'immobilier, l'argent.
Pendant 10 ans, j'ai vu les plus grands bouleversements de ma ville natale. La part entre la fiction et le réel est de 50-50. Toutes ces histoires du film se sont réellement passées dans ma famille. Par le film, je pose plutôt des questions, des interrogations sur ces phénomènes de course à la possession que d'avoir une réelle critique à ce sujet. Ces conflits se traduisent de façon intergénérationnelle, puisque la génération des parents, marquée par la pénurie de leur jeunesse ou de leur enfance, veulent se sécuriser par les possessions matérielles, et tandis que la génération des enfants, donc ma génération, est d'aspirer vers autre chose, plus spirituelle.
Pour témoigner de cette évolution, le réalisateur nous plonge ici dans le quotidien d'une famille chinoise, la grand-mère, ses quatre fils et leurs enfants. Autant de profils et de générations qui offrent une lecture différente de l'évolution des mentalités, le poids des traditions, la difficulté à s'émanciper. Gu Xiaogang prend son temps et filme avec beaucoup de détails la pression, par exemple, des mères qui veulent à tout prix que leurs filles réalisent de bons mariages et pas avec un prof qui, avec son salaire, mettrait plus de 20 ans à acheter leur appartement.
Évolution des mentalités, mais également des paysages. Corinne, la beauté de la nature face à la laideur de la modernité, c'est aussi ce qui fait la force et la singularité de ce film, inspiré d'une peinture chinoise.
Exactement, Gu Xiaogang, sur le plan esthétique, s'est beaucoup inspiré de la peinture classique chinoise et notamment de cette grande fresque peinte il y a plus de 600 ans, Séjour dans les monts Fushun, qui donne son titre au film. Film qui se déroule comme un tableau le long d'un fleuve, en décrivant avec beaucoup de précision le quotidien d'une époque, la vie au fil des saisons.
Pour moi, la démarche est davantage introspective. L'idée, c'est de comment connecter avec l'esprit d'une Chine éternelle. Quelque part, si on se mettait à la place d'un Chinois ancien, qui regarde la Chine d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a la ville moderne, mais les montagnes, les fleurs sont toujours là. Ce sont des éléments qui n'ont pas changé depuis des millénaires. Quelque part, cette reconnexion nous permet d'avoir une certaine sérénité dans ce monde agité, envahi par des publicités qui nous sollicitent, qui nous suggèrent des modèles de bonheur, de bien-être sur des biens matériels qu'il faut avoir. Quelque part, c'est seulement d'avoir une sérénité intérieure en faisant cette quête spirituelle qu'on pourrait trouver la paix.
Le résultat est très beau, très maîtrisé, avec de longs plans séquences aussi très libres. On a hâte de voir ce que ce jeune réalisateur fera par la suite. Rappelons qu'il s'agit là de son tout premier film.
Merci Corinne Pellissier. Retenez bien ce nom, Gu Xiaogang, Séjour dans les monts Fushun, au cinéma ce mercredi. Séjour dans les monts Fushun, c'est un film France Inter.
Pierre Veil, le 18-20.
Le monde à l'envers avec Claude Guibal depuis lundi. Claude, on revient avec vous sur des crises qu'on croyait réglées, des crises oubliées. Ce soir, nous partons vers les contreforts de l'Himalaya et plus exactement au Cachemire, théâtre d'une des crises les plus anciennes de la planète.
Oui Pierre, c'est un conflit tellement ancien, je vous le disais tout à l'heure, qu'on a parfois oublié même qu'il existe. Une crise d'une complexité sans nom. Alors pour tenter de comprendre, le mieux Pierre, c'est quand même de regarder en arrière, de remonter le temps. Alors si je vous dis 1947, qu'est-ce que cette date vous évoque?
1947, c'est la séparation, l'Empire britannique et les Indes.
Exactement. 1947, c'est la fin de l'Empire britannique des Indes. En une nuit, deux États sont créés, l'Inde hindoue et le Pakistan musulman. Eh bien, cette séparation, elle se fait dans la douleur, exode massif de population de part et d'autre, violence meurtrière. Et coincé entre ces deux pays, il y a un territoire princier, le Cachemire, sur les flancs de l'Himalaya. Son dirigeant, un hindou, décide alors de s'allier à l'Inde contre la volonté de sa population, hein, qui est à majorité musulmane, et il fait ça en échange d'un statut d'autonomie particulier. Et là, vous retenez bien ce point parce que ça va être important pour la suite.
Et ce Cachemire, Claude, si stratégique, on l'a compris, l'Inde et le Pakistan veulent d'emblée tous les deux le contrôler.
Oui, et ça, c'est le début d'une très très longue série de guerres et d'une partition du Cachemire entre Indiens et Pakistanais. Cette partition, elle se matérialise aujourd'hui par une ligne de cessez-le-feu qui fait office de frontière, hein, en fait, depuis 1949. Là, il y a 700 000 soldats quand même, hein, qui sont déployés, ce qui fait que cette frontière, c'est aujourd'hui l'endroit le plus militarisé du monde, une des zones les plus éruptives de la planète. Alors évidemment, les grandes victimes de tout cela, ce sont bien sûr les Cachemiris eux-mêmes qui sont écartelés même entre la rapacité de l'Inde et du Pakistan. Des Cachemiris qui n'ont donc pas de nation, des Cachemiris qui n'ont jamais même pu obtenir que soit organisé le référendum d'autodétermination que les Nations Unies leur avaient pourtant promis il y a 70 ans.
Et c'est un conflit complexe, vous le disiez, hein, Claude, bien au-delà de la dispute entre l'Inde et le Pakistan.
Parce qu'il faut y ajouter d'autres acteurs, évidemment, à commencer par les indépendantistes. Depuis les années 80, une insurrection séparatiste cachemirie existe, elle a pris de l'ampleur, et l'Inde accuse le Pakistan d'armer, d'entraîner des rebelles, dont des djihadistes, pour commettre des attentats sur le sol indien. Et ce qui n'arrange rien, c'est que l'Inde et le Pakistan, vous le savez, ils ont tous les deux la bombe atomique et ils menacent donc régulièrement de s'en servir. Et cette menace nucléaire, elle a quelque part figé la crise en faisant régner une sorte d'équilibre de la terreur.
Et sauf que cet équilibre de la terreur n'est pas loin de se rompre.
Oui, parce que cet été, on a franchi une nouvelle limite. En Inde, comme vous le savez, l'homme fort, c'est le Premier ministre Narendra Modi, un ultranationaliste au pouvoir depuis 2014 et dont une des promesses de campagne, eh bien, c'était justement de reprendre totalement la main sur le Cachemire. Eh bien, c'est ce qu'il a fait cet été en révoquant brusquement la semi-autonomie du Cachemire. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, dans cette partie contrôlée par l'Inde.
Et cette escalade fait désormais craindre le pire.
Oui, parce que dans cette région-là, eh bien, l'étau depuis s'est resserré de façon absolument insupportable sur la population qui, bien sûr, est révoltée par cette décision. Répression, violence, mort. Depuis 4 mois, l'Internet est totalement coupé, hein, pour empêcher que les gens ne s'organisent. Les 7 millions d'habitants, hein, du Cachemire sont quasi coupés du monde, hein. En fait, l'effet sur l'économie locale est dramatique. Entre l'Inde et le Pakistan, forcément, le bras de fer se durcit. Les morts se multiplient. Aujourd'hui encore, hein, sur la frontière, 2 soldats indiens ont été tués en tentant d'intercepter des Pakistanais. Et le rythme est tel, hein, qu'on craint désormais qu'il va y avoir l'attaque de trop, celle qui va entraîner une réplique nucléaire avec chacun 150 têtes nucléaires dans leur arsenal. Eh bien, ces deux pays, l'Inde et le Pakistan, auraient de quoi, Pierre, anéantir, écoutez bien, 125 millions de personnes. Et avec des dirigeants aussi radicaux que Narendra Modi en Inde et Imran Khan au Pakistan, les spécialistes, hélas, sont unanimes. Un scénario catastrophe n'est plus du tout à exclure.
Le monde à l'envers. Claude Guibal, à demain, Claude.